Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui restera imperturbable face à sa tradition et qui vous apprendra ou qui vous rappellera que 24 notes secondes, c'est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, pertinente ou un peu moins, les petites images qui bougent sur tout un tas d'écrans maintenant. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer notre émission à la carrière, ou plutôt à une toute petite partie de la carrière d'un des réalisateurs les plus prolifiques du cinéma français, le dénommé Jean-Pierre Mocky, réalisateur, acteur, scénariste, né le 6 juillet 1929 à Nice. C'était vraiment pas la ville où on aurait pu imaginer que Jean-Pierre Mocky naisse. L'homme est d'origine polonaise, il s'appelle Mokiejewski, si vous voulez le savoir, enfin il s'appelait, puisque il nous a hélas quitté, et donc il promet, puisque dès 1945, il est le plus jeune bachelier de France, dit ma petite fiche qui ne ment jamais, fait des études de droit, exerce divers métiers, monte au théâtre, puis devient acteur de cinéma. Mais oui, à partir de 1949, c'est-à-dire en ses toutes jeunes 20 années, eh bien il tourne des films, Le Comte de Monte Cristo, Le Paradis des Pilotes Perdus, des films bien oubliés, mais dans lesquels il se taille un gros succès. Et du coup, c'est tout naturellement qu'en 1958, il devient d'abord scénariste pour La tête contre les murs, un film de Georges Franju, d'après un roman d'Hervé Bazin, qu'il devait réaliser, mais les producteurs le jugent trop jeune. Et il prend sa revanche en 1959, en tournant son premier film en tant que réalisateur, le premier d'une centaine, il me semble, c'est dire l'ampleur de la carrière de Jean-Pierre Mocky. Ça s'appelle Les Dragueurs, et on trouve dans les rôles principaux Charles Aznavour, que personne n'aura oublié, j'imagine, et Jacques Charrier, que par contre, lui, tout le monde aura oublié, alors qu'il fut dans les années 60 l'un des grands charmeurs de l'écran français. Le terme « dragueur », eh bien, c'est le film qui le popularisa, en tout cas d'après Jean-Pierre Mocky. L'histoire, eh bien, elle en découle, c'est l'histoire de deux hommes qui draguent, et ma foi, ils draguent de bien jolies filles, puisque dans les rôles principaux, on retrouve Danny Carell, Danny Robin, Estella Blin, bien oublié, Belinda Dali, que vous ne connaissez pas, c'est pour les cultissimes. Elle a joué dans des films d'horreur après. Et Anouk Aimée, bien avant Un homme et une femme. Quant à la musique, eh bien, elle est signée là aussi d'un jeune qui promettait, Maurice Jarre, pas encore celui de Docteur Jivago ou de Laurence d'Arabie. Maurice Jarre, donc, dont on écoute un petit extrait, la musique des Dragueurs, Jean-Pierre Mocky, 1959, dans 24 notes secondes. Thank you. La musique de Maurice Jarre pour Les Dragueurs, un film de Jean-Pierre Mocky, le premier, tourné en 1959. Ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve déjà en 1959 dans cette musique de Maurice Jarre tous les tics dont le compositeur usera, et il faut bien le dire, en tout cas à mon goût, abusera dans le reste de sa carrière, si prestigieuse soit-elle. Bon, c'est pas très gentil, mais c'est comme ça. On va écouter maintenant un extrait d'un autre film de Jean-Pierre Mocky. Alors, vous m'en voudrez, même si je suis sur un terrain un peu glissant, de considérer que c'est la suite directe des Dragueurs, parce que le film s'appelle Les Vierges. Il est tourné en 1963. Et c'est un film à sketch où on voit, en fait, des jeunes filles ne plus l'être, si vous m'avez compris. Le tout était issu d'un grand concours. Là, j'étais ma petite fiche, j'y crois à peine. Un grand concours organisé en septembre 1962. Dont l'intitulé était, je cite, hein, « Racontez votre première nuit d'amour ». Il y eut 3700 lettres qui furent envoyées, un premier prix de 10 000 francs. On ne sait pas trop sur quels critères le prix a été décerné. Et apparemment, Jean-Pierre Mocky, mais le gars était fort roublard, s'est nourri, entre guillemets, de certaines de ses histoires pour faire les 1, 2, 3, 4, 5 sketchs qui composent le film et qui permettent donc d'éprouver différents cas de figure. J'arrête sur le terrain glissant. Dans les rôles principaux, on retrouvait Charles Aznavour, Gérard Blin, Francis Blanche, Jean Poiret, donc des garçons, il en faut la plupart des cas, et quelques actrices dont, ma foi, peu resteront connues. On veut quand même noter la présence de la délicieuse Stefania Sandrelli, qu'on retrouvera dans les années 70 dans nombre de comédies italiennes. La musique, elle est signée de Raymond Lefèvre. Et bien, comme on reste dans le rythme vite, 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 façon Mocky, on en écoute un extrait, Les Vierges, dans 24 notes secondes. Années 60 de Raymond Lefèvre pour Les Vierges, un film de Jean-Pierre Mocky, un film à sketch tourné en 1963. Et j'avoue qu'en regardant la fiche générique de ce film, eh bien, il y a des noms qui sont restés, comme celui de Charles Aznavour ou de Francis Blanche, mais peut-être que même vous ne savez plus qui est Francis Blanche. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de noms qui ont disparu dans les méandres de l'histoire du cinéma. Sic transit gloria mundi, comme disait mon prof de latin. On va écouter évidemment un extrait d'une nouvelle bande originale de Jean-Pierre Mocky. Il faut dire que dans les années 60, l'homme tourna de manière frénétique entre Les Dragueurs et Les Vierges. Il y avait eu deux films. Et entre Les Vierges et La Cité de l'Indicible Peur, quel beau titre, il y en eut un autre, un drôle de paroissien dans lequel on voyait déjà Bourvil, qu'on retrouve en vedette de La Cité de l'Indicible Peur. Alors, comme son titre le suggère ou l'esquisse, il s'agit de l'enquête dans une petite ville de province, de deux petites villes de province auvergnates, pour tout dire, de deux détectives, mais le mot est un peu mal choisi, s'agissant de Bourvil et de son acolyte Marcel Pérez, que vous avez oublié, mais qu'on vit beaucoup dans les années 60 dans des seconds rôles, qui se retrouve donc quelque part dans le Cantal à Salers. Ben oui, à Salers, une ville du 15e, en tout cas, restée un peu dans son jus. Ma foi, le film était bienvenu, c'était l'adaptation d'un roman de Jean Rey, un romancier belge très prolifique qui est essentiellement connu pour avoir fait un clone de Sherlock Holmes qui s'appelait Harry Dixon. Il était américain, tandis que Sherlock Holmes, et j'ai besoin de le préciser, était anglais, mais ma foi, c'était bienvenu. Et l'homme, Jean Rey, a publié énormément de romans, dont ce cité de l'indicible peur. Aux côtés de Bourvil, il y avait d'autres acteurs bien connus de l'époque, Jean-Louis Barrault, Francis Blanche, donc déjà nommé, Jacques Dufilot, Victor Francène, alors qu'il nous ramène aux années 30, aux grandes années 30 du cinéma français. Bref, surtout des garçons pour un film, ma foi, tout en nuances, qui fut mutilé à sa sortie. Les producteurs obligèrent Mocky à tourner d'autres scènes, en supprimer certaines. À l'époque, le film sortit sous le titre de La Grande Frousse, qui n'était pas d'un meilleur goût. Et 10 ans plus tard, Mocky était un gars obstiné. Mocky racheta le négatif, les droits, remonta le film. Et le film que nous pouvons voir maintenant, La Cité de l'Indicible Peur, il est issu donc de ce remontage. La musique, elle est signée de Gérard Calvi, bien connu lui aussi dans les années 70. La Cité de l'Indicible Peur, 24 notes secondes. Gérard Calvi faisait ça avec des bruits de sifflet dans ses musiques, un extrait de la bande originale de La Cité de l'Indicible Peur, une musique donc de Gérard Calvi, un film de Jean-Pierre Mocky que nous évoquons un peu au pas de course, mais à la fois ça correspond bien au personnage, lui-même était un homme multiforme et qui ne s'arrêtait jamais, en témoigne donc une production assez impressionnante. Et après La Cité de la Peur, on vit en 1966, La Bourse et la Vie, en 67, Les Compagnons de la Marguerite, en 68, La Grande Lessive, en 70, Les Talons, et Solo. Rien que deux films en 1970, avec pour la majorité d'entre eux une caractéristique commune, c'est que leur principal interprète était Bourvil, déjà cité. Bourvil, bon, qui, avec les films de Gérard Rouri, connut une autre forme de célébrité, mais qui, ma foi, trouva en Jean-Pierre Mocky, à moins que ce ne soit à l'inverse, un complice de tous les jours. Et du coup, quand en 1971, eh bien, après le décès de Bourvil, Jean-Pierre Mocky entreprit un nouveau film intitulé L'Albatros, eh bien, ma foi, il le dédia à Audy Bourvil, et c'était plutôt bienvenu. en 70, Solo, que j'ai déjà évoqué, avait pour réalisateur Jean-Pierre Mocky, mais aussi pour principal interprète Jean-Pierre Mocky. Il renouait donc avec ses premières amours. Solo, une histoire de romantico-anarchiste. Et ma foi, l'Albatros reprend un peu la même trame, c'est-à-dire que Jean-Pierre Mocky, il joue le rôle d'un évadé de prison romantico-anarchiste qui tombe amoureux d'une jeune fille interprétée par Marion Gamme, que peut-être vous avez vu maintenant dans des rôles très très différents à la télévision, mais je n'en dis pas plus, cherchez sur Internet. Et le tout se passe pendant une campagne électorale, quelque part dans la ville de Sarreguemines, là-bas dans les Hauts-de-France. Et quand je regarde le portrait du candidat dont la jeune fille est la... Donc, je vais y arriver, dont la jeune fille donc est le... La jeune fille, voilà, c'est ça. Le père qui est du candidat. Je ne vais pas y arriver, mais on est dans un film de Jean-Pierre Mocky. Donc je reprends tout. Jean-Pierre Mocky joue le rôle d'un évadé de prison qui tombe amoureux d'une jeune fille qui se trouve être la fille d'un candidat à une élection à Sarreguemines. Comme ça, on comprend mieux. Et donc, je voulais vous dire, puisque j'étais tout ça pour une perfidie, que le candidat à l'élection, eh bien, il ressemble à Gérard Larcher. Vous voyez qui c'est, Gérard Larcher, le président du Sénat, le deuxième personnage de l'État. Bref, tout ça pour dire que Jean-Pierre Mocky, il reste toujours dans l'actualité par son romantisme anarchiste et iconoclaste. Et justement, anarchiste et iconoclaste, on va le rester, puisque figurez-vous que la musique de l'Albatros, elle est signée de Léo Ferré. Je n'en dis pas plus, on l'écoute dans 24 notes, seconde. Ah ben oui, c'est très court, c'est de Léo Ferré, mais c'est très court. Un extrait de la bande originale de L'Albatros, un film tourné en 1971. Oui, moi aussi, j'ai pensé qu'au début, c'était « avec le temps va, tout s'en va », etc., etc. Pas, certainement pas me mettre dans les pas de ce cher Léo qui composa donc, j'avoue que je ne sais pas trop combien il a composé de musique de film, mais à mon avis ça n'a pas en faire un paquet, et en tout cas, il l'a fait pour Jean-Pierre Mocky. Ma foi, il y avait des rapprochements moins... pertinent, Jean-Pierre Mocky, que nous allons continuer à évoquer avec la même célérité pour un film tourné cette fois en 1975. Alors je vérifie dans ma petite fiche combien Jean-Pierre Mocky aura tourné de films entre celui que je viens d'évoquer, l'Albatros, et celui que nous allons évoquer maintenant. Oh, seulement deux films entre l'Albatros et Un linceul n'a pas de poche, tourné en 1974. Alors, Un linceul n'a pas de poche, c'est un très beau titre, mais c'est celui de la version française du roman d'Horace McCoy que Jean-Pierre Mocky a adapté, donc ce n'est pas un titre de Mocky. Une histoire policière dans laquelle Jean-Pierre Mocky tenait à nouveau le premier rôle avec à ses côtés Francis Blanche dans son dernier rôle au cinéma, Jean Carmé, Michel Constantin, Michel Galabru, Michel Lonsdale, Jean-Pierre Marielle. Ils ont tous tourné avec Jean-Pierre Mocky. Je ne peux pas vous dire que c'est pour gagner de l'argent, c'était juste pour le plaisir de faire des films un peu différents, des films libres, indépendants. Mocky, il restera libre, indépendant jusqu'à la fin de sa vie. Ma foi, il y a peu de réalisateurs surtout français, qui peuvent en dire autant, mais lui, il le fit. À la fin, il se produisait lui-même. Bref, une filmographie peut-être pas toujours de la meilleure qualité, mais en tout cas, toujours menée par cette farouche individualisme qui était celui du réalisateur. La musique, eh bien, ma foi, je ne sais pas si vous allez l'entendre, si vous allez la reconnaître, pardonnez-moi, mais à l'époque, il s'en vendit près de 3 millions de disques. 3 millions de disques, un succès absolument étonnant pour cette Dolanès Mélodie. Dolanès était le nom du personnage interprété par Jean-Pierre Mocky. Une musique signée de Paul Senneville et Olivier Toussaint, dont je ne sache pas qu'après ils aient fait une très très grande carrière, mais ma foi, avec ça, et peut-être encore maintenant, ils ont pu vivre de leur rente. On va en écouter un extrait, on va écouter la Dolanès Mélodie, et vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose dans 24 notes secondes. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais je peux vous assurer qu'en 1975, on n'écoutait que ça, la Dolanès Mélodie, trompette et flûte de Pan de Paul de Senneville et Olivier Toussaint pour Un linceul n'a pas de poche, un film de Jean-Pierre Mocky, auquel nous consacrons au pas de course cette émission de 24 notes secondes. Et on va rester d'ailleurs en 1975, puisque cette même année, Jean-Pierre Mocky tourna un autre film dans lequel un autre monstre sacré du cinéma trouva son dernier rôle, Michel Simon. Et oui, Michel Simon, qui avait débuté sa carrière entre 40 et 50 ans auparavant, et qui la termina donc quelque part au bord d'un canal parisien, là même où 40 ans plus tard, il avait tourné un chef-d'œuvre du cinéma français, La Talente, de Jean Vigo, dans lequel il interprétait le rôle inoubliable du père Jules. Et bien, ma foi, il y a des coïncidences qui n'en sont pas. C'est à ce même endroit qu'il termina sa carrière cinématographique pour ce film où l'on voyait donc Michel Simon dans un de ses rôles d'atrabilaire dont il était familier à la fin de sa carrière. Et Michel Serrault, qui jouait, lui, un cadre de la Sécu, traumatisé enfant par sa prof de piano, sur la poitrine de laquelle une mouche s'était posée et qui depuis était devenu un tueur en série. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un film de Jean-Pierre Mocky. Donc, question scénario, tout, absolument tout était possible. C'était le charme de la personne et du personnage. La musique de L'Ibis Rouge, elle est signée d'Éric Demarsan, qui collabora à de nombreuses reprises avec Jean-Pierre Mocky. On reste sur ce rythme-là et on en écoute un extrait dans 24 notes secondes. Thank you. Sauf erreur de ma part, ce bizarre instrument s'appelle la scie égoïne, un extrait de la bande originale de L'Ibis Rouge, des musiques d'Éric de Marsan, un film de Jean-Pierre Mocky tourné en 1975. On va se quitter avec la bande originale d'un film tourné en 1978, c'est-à-dire à peine 20 ans après le début de la carrière de réalisateur. 20 ans, 18 films, ma foi, il y a des hommes moins productifs. Le film, il s'appelle Le Témoin, donc de Jean-Pierre Mocky. On y retrouve dans les rôles principaux Alberto Sordi et Philippe Noiret, ma foi. Il y a des têtes d'affiche moins prestigieuses, une histoire policière, là encore, franco-italienne. La musique, elle est de Piero Piccioni. On va finir comme dans un film de Jean-Pierre Mocky. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye, moteur !